Mesdames, messieurs, chers amis, merci de votre présence. Mes premiers mots seront bien sûr pour regretter l'absence de Madame Kim, qui aurait dû être l'âme de cette réunion, et sans laquelle, évidemment, cette petite commémoration va perdre beaucoup de ce qui aurait été sa qualité. Mais néanmoins, nous avons répondu présent à son appel, non pas pour la remplacer, elle était remplaçable, mais pour tenir lieu d'interlocuteur à l'ensemble des présents à l'occasion de ce centenaire de Yisang. Alors, la salle n'est pas bien grande, nous l'avons pour une heure. Plutôt que de multiplier les considérations d'ordre général, il faudrait idéalement que ce soit l'occasion d'entendre le plus possible et le mieux possible un peu de la poésie de ce grand poète, après toutefois qu'il ait été présenté, ce dont Madame Michèle Duclos, professeure à l'Université de Bordeaux III, va se charger. Je lui donne donc la parole pour qu'elle nous présente Yisang. Ensuite, de quoi nous entendrons la lecture de poèmes de Yisang en coréen, en français, puis en anglais, avec l'intervention d'un musicien qui ponctuera ses lectures avant les lectures et à leur clôture. Et ensuite, nous nous entretiendrons avec la salle, après avoir entendu M. Emmanuel Iriart, qui dirige la revue Poésie Première, laquelle vient de consacrer un numéro à la poésie coréenne contemporaine. Et à l'occasion de cette conversation, je me permettrai de dire moi-même quelques mots en tant qu'éditeur de quelques-uns des poètes coréens que Mme Kim Bona a traduit et que j'ai eu le bonheur et l'honneur de publier à Bordeaux. Voilà, donc place à la poésie et tournons cette soirée vers la figure de Yisang. Donc, Madame Duclos, si vous voulez bien nous parler un petit peu de lui et dire au présent qui était le poète que nous célébrons ce soir.
Merci beaucoup. Yisang est parfois considéré comme un Rimbaud coréen, moins par la précocité de son inspiration et par celle de sa mort, car il est mort très jeune, mais parce que dans la première moitié du XXe siècle, la toute première moitié du XXe siècle, il a révolutionné une poésie coréenne qui était encore très traditionnelle par ses thèmes, tels que la célébration de la nature, et par ses formes. Et dans cet effort de révolution, il s'est heurté souvent à l'incompréhension, voire à l'hostilité de ses contemporains. Par contre, cela en fait un précurseur de la poésie coréenne aujourd'hui. Il est né en 1910 et c'est aussi l'année où le Japon a envahi et annexé la Corée, qu'il a occupée jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il faut dire qu'au cours des siècles, le pays du matin calme, c'est-à-dire la Corée, a suscité à tour de rôle la convoitise de ses voisins puissants, la Russie, la Chine et le Japon. Et les Chinois ont laissé à sa culture, comme un présent, leur langue et leur écriture, qui sont devenues le coréen classique. Les occupants japonais ont tenté d'étouffer la culture coréenne qui avait pris du retard sur la leur dans le domaine de l'occidentalisation. Mais en revanche, ils ont attiré sur la culture japonaise la curiosité des jeunes lettrés coréens. Yisang, notre poète, connaissait bien le chinois et il a publié ses premiers poèmes en japonais. Il est mort aussi à l'occasion d'une visite au Japon. Yisang, il s'agit d'un pseudonyme, ce qui était un phénomène assez rare, qui marque entre autres son rejet de la tradition familiale, du respect familial. Yisang est né dans une famille aisée, mais son père, qui était imprimeur, fut victime d'un accident, à la main, et fut donc réduit au chômage. Et ce fut la gêne dans la famille. Son fils, le futur poète, âgé de 2 ans, fut recueilli et élevé par un oncle qui était un homme cultivé, un architecte, qui orienta à son tour son neveu vers l'architecture, alors que l'adolescent, lui, souhaitait se consacrer à la peinture. Par la suite, d'ailleurs, il gagna des prix de dessin ou de peinture. Néanmoins, il devint ingénieur architecte. Il renonça, au bout de quelques années, à ce métier où pourtant il réussissait, pour mener une existence bohème, aggravée par une santé délabrée et plusieurs déceptions sentimentales. Il était dépressif, voire suicidaire, au moins dans ses poèmes, et sa vie affective, elle aussi, en souffrit. Tuberculeux et négligent de se soigner, il mourut à l'âge de 27 ans. On peut donc le qualifier de poète maudit, mais il se heurta à l'incompréhension, voire l'hostilité donc, de ses contemporains, parce qu'il refusait de se plier totalement aux conventions thématiques et formelles de beauté, d'harmonie, dans un pays d'obédience confucéenne où le respect de la tradition était ou est capital. Il a cherché à expérimenter sous l'influence des poésies occidentales et il est très près parfois de l'esprit dada, allant jusqu'à créer des poèmes totalement abstraits, je ne sais pas si on les verra, des poèmes qui sont des, par exemple des carrés composés de chiffres sans signification immédiate ou même de dessins comme celui-ci, n'oublions pas qu'il était architecte et scientifique. Parfois, ce sont des textes totalement prosaïques, comme des comptes rendus de réunions de travail ou des rapports scientifiques, carrément. Et d'une manière qui est moins provocante d'un point de vue occidental, mais peut-être pas pour les Coréens, il a placé au premier plan de ses poèmes l'individu avec ses interrogations existentielles, ses souffrances physiques et morales, recourant parfois à des images grinçantes. Par son ironie glacée, il me rappelle, en plus agressif d'ailleurs, Jules Laforgue, le poète français de la fin du XIXe siècle, qui eut une existence peut-être moins douloureuse, mais qui mourut lui aussi de tuberculose à 27 ans et qui est à l'origine du vers libre et d'un traitement ironique de la poésie, donc, qui en faisait aussi un précurseur en France, et aussi pour d'ailleurs les Américains plus tard. Donc je vais simplement lire un poème qui illustre à la fois la souffrance et la révolte du poète, qu'il illustre parmi bien d'autres. C'est une allégorie grotesque de sa mésentente avec la femme qu'il avait épousée, et plus largement, c'est l'expression de son inadaptation au monde. Ce poème, je l'ai ici. Il figure d'ailleurs dans les deux volumes, le vôtre, M. Michel, et dans la revue. Il s'appelle « Stèle en papier ». Je crois d'ailleurs au départ qu'il y a un contraste entre l'idée de stèle qui est associée à la pierre et le papier, qui est le fugitif. Je suis de grande taille, mes jambes sont longues, ma jambe gauche me fait souffrir. Ma femme est de petite taille, ses jambes sont courtes, sa jambe droite la fait souffrir. Avec ma jambe droite et sa jambe gauche, celles qui sont bien portantes, nous déambulons comme une personne. Ah ah! Ce couple ne peut s'épauler, ils deviennent boiteux. Le monde sans accroc se transforme en hôpital. Assurément, il y a toujours une absence de maladie qui attend d'être soignée. Voilà, je pense que maintenant, nous allons entendre d'autres poèmes lus en coréen, en français et en anglais. Voilà, merci.
Merci à Madame Duclos pour cette présentation. Et la parole au poète, alors, par votre entremise.
Le papillon. Sur la tapisserie déchirée, un papillon. un va-et-vient sans fin s'établit avec le royaume des défunts, par une bouche secrète de communication. Un jour, dans le miroir, sur ma barbe, je vis un papillon mourir. Les ailes pantelantes, le papillon buvait de mon haleine humide la rosée mauve. Avec ma paume, j'obstrue ma bouche béante. Si étant assis, je me lève et meurs, le papillon, lui, s'envolera. Corps de moi, cette parole ne s'échappe jamais.
나비 찢어진 벽지에 죽어가는 나비를 본다. 그것은 유괴에 낙엽되는 비밀한 통화구다. 어느 날 거울 가운데에 수염에 죽어가는 나비를 본다. 날개 축 처진 나비는 입김에 어리는 가난한 이슬을 먹는다. 통화구를 손바닥으로 꼭 막으면서 내가 죽으면 앉았다 일어서듯이 나비도 날아가리라. 이런 말이 결코 밖으로 새어나가지는 않게 한다.
'Butterfly. I see a butterfly dying on a tear in the wallpaper. It is a secret passage to the other world. One day, on a bier, in the middle of a mirror, I see a butterfly dying. Wings limp, it feeds in a meager dew of breath. If by clothing the passage with my palm, I were to die, the butterfly, as if rising from a seat, would fly away. These words must never be allowed to slip out.
L'arbre en fleur. Au milieu du champ se trouve un arbre en fleur. Alentour, aucun arbre en fleur. L'arbre en fleur pense à l'arbre en fleur. Si ardemment il pense qu'il se dresse abondamment fleuri. L'arbre en fleur pense à l'arbre en fleur et demeure là. Je m'enfuis à toutes jambes, car imiterais-je étrangement un tel arbre en fleur.
꽃나무. 벌판 한복판에 꽃나무가 하나 있소. 근처에는 꽃나무가 하나도 없소. 꽃나무는 제가 생각하는 꽃나무를 열심으로 생각하는 것처럼 열심으로 꽃을 피워가지고 섰소. 꽃나무는 제가 생각하는 꽃나무에게 갈 수 없소. 나는 막 달아났소. 한 꽃나무를 위하여 그러는 것처럼 나는 참 그런 이상스러운 흉내를 내었소.
Flowering tree. In the middle of a field there is a tree in bloom. There are no other flowers in the vicinity. As the flowering tree thinks hard about the flowers it thought up. It stands with the flowers it worked hard to produce. The flowering tree could not achieve the flowers it thought up. I run away, as if doing it for the flowering tree, I play out this strange mimicry.
À Soyang. Devant ton visage, sous la clarté de la lune, mon visage devient une feuille transparente. Et les mots se figent qui voudraient te louer. Mon souffle, qui fait frissonner la porte à glissière, rampe dans tes cheveux qui gardent l'odeur du champ des camélias. Un à un, comme le riz, je repique mes chagrins. Lorsque j'erre dans le champ d'argile, les empreintes aiguës de tes talons dégorgent de pluie. je suis infiniment las de tes mensonges et de tes moqueries. Avant que mes chagrins n'éclatent en sanglots, je pose à terre le verre de ma déception et j'en asperge le ciel. Est-ce que ce sont tes pas qui ont bousculé mon verre lorsque tu errais dans le champ d'argile? Un rayon de lune enfourche mon dos où demeure la trace de la natte de paille. Dans mon ombre, le sang perle tel du piment rouge lacéré en fines lamelles. Mais dans mes veines coule goutte à goutte l'eau glacée saisie par la clarté lunaire. Et toi, voyant mon cœur en étoffe déchirée, déçu et affamé, puisqu'il se nourrit de briques, dis-tu qu'il est un aquarium ?
Soyons huitiers. Dalbis 속에 있는 내 얼굴 앞에서 내 얼굴은 한 장 얇은 피부가 되어 너를 칭찬하는 내 말씀이 발음하지 아니하고 미닫이를 간지르는 한숨처럼 동백꽃밭 냄새에 지니고 있는 내 머리털 속으로 기어들면서 모심득히 내 서름을 하나하나 심어가네. 진흙밭 헤매일 적에 내 구두 뒤축이 눌러놓는 자국에 비 내려 가득 괴었으니 이는 온갖 내 거짓말, 내 농담에 한없이 고단한 이 서름을 곡으로 울기 전에 따에 놓아 하늘에 부어놓는 내 억울한 술잔, 내 발자국이 진흙밭을 헤매이며 헤뜨려 놓음이냐. 달빛이 내 등에 묻은 거적자국에 앉으며 내 그림자에는 실고추 같은 피가 아물거리고 대신 혈관에는 달빛에 놀래인 냉수가 방울 방울 젖기로니 너는 내 벽돌을 씹어삼킨 원통하게 배고파 이지러진 헝겊 심장을 들여다보면서 어항이라 하느냐.
스텔레 en papier. Je suis de grande taille, mes jambes sont longues, ma jambe gauche me fait souffrir. Ma femme est de petite taille, ses jambes sont courtes, sa jambe droite la fait souffrir. Avec ma jambe droite et sa jambe gauche, celles qui sont bien portantes, nous déambulons comme une personne. Ah, ce couple ne peut s'épauler, ils deviennent boiteux. Le monde sans accroc se transforme en hôpital. Assurément, il y a toujours une absence de maladie qui attend d'être soignée.
집이 내 키는 커서 다리는 길고 왼다리 아프고 아내 키는 작아서 다리는 짧고 바른 다리가 아프고 내 바른 다리와 아내 왼다리와 성한 다리끼리 한 사람처럼 걸어가면 아이 부부는 부축할 수 없는 절름발이가 되어버린다. 무사한 세상이 병원이고 꼭 치료를 기다리는 무병이 끝끝내 있다.
Abîme. Une fleur invisible. Une fleur parfumée. Sa floraison embaume. Je creuse là le trou de ma tombe. Le trou de la tombe est invisible. J'entre pour m'asseoir dans le trou invisible de ma tombe. Je m'y étends. Mais encore, la fleur parfumée, la fleur invisible, sa floraison embaume. J'oublie, puis je creuse encore là, le trou de ma tombe, le trou invisible de ma tombe. L'invisible trou de la tombe, soudainement, je délaisse la fleur, j'entre, et vraiment, je m'y étends. Ah, la fleur encore parfumée, La fleur tout aussi invisible. Invisible, cette fleur.
묘혈도 보이지 않는다. 보이지 않는 묘혈 속에 나는 들어앉는다. 나는 눕는다. 또 꽃이 향기롭다. 꽃은 보이지 않는다. 향기가 만개한다. 나는 잊어버리고 재차 거기 묘혈을 판다. 묘혈은 보이지 않는다. 보이지 않는 묘혈로 나는 꽃을 깜빡 잊어버리고 들어간다. 나는 정말 눕는다. 아, 꽃이 또 향기롭다. 보이지 않는 꽃이, 보이지도 않는 꽃이.
Une pomme est tombée. La terre en est blessée au point de se briser. Fin. Dès lors, aucune idée n'y germe.
최후, 능금 한 알이 추락하였다. 지구는 부서질 정도만큼 상했다. 최후, 이미 여하한 정신도 바라하지 아니한다.
The end. A single apple falls. The earth is injured just to the breaking point. The end. No longer will thus germinate.
Merci.
Rien ne remplace l'écoute des poèmes quand il s'agit d'honorer la mémoire d'un poète. Nous en avons eu une démonstration tout à fait convaincante. Mais néanmoins, puisque nous sommes assemblés pour échanger quelques mots autour de ce fait, une poésie moderne surgit en Corée au début du siècle, enfin dans le premier tiers du XXe siècle, et elle sera très féconde puisque, vous le savez, la Corée a une poésie contemporaine extrêmement riche, fournie, touffue, variée et vivante. Pour le peu qu'il m'ait été donné d'en connaître, j'ai publié 3 auteurs très différents, tous très intéressants, très singuliers, et j'ai eu le bonheur de rencontrer un certain nombre d'entre eux à l'occasion de ce petit colloque qu'avait organisé Madame Kim il y a quelques années à Bordeaux, ce qui nous a donné l'occasion d'échanger directement avec un certain nombre d'entre eux, et pour certaines de ces figures, elles sont, je dois le dire, pour moi, mémorables. J'ai le souvenir, par exemple, d'une lecture donnée par M. Ko, ceux qui étaient là s'en souviennent nécessairement, d'un poème de Wang Jini qu'il avait chanté, il n'y a pas d'autre mot, enfin psalmodié d'une manière tellement stupéfiante que l'assistance était littéralement clouée sur place. Évidemment, la poésie contemporaine a lutté avec une tradition puissante. car lorsqu'on entend M. Ko psalmodier Wang Jinyi, on voit ce qu'était la puissance de cette poésie traditionnelle. Et si Yisang est la figure de la révolte de juvénile à l'encontre de la tradition, ce en quoi il ouvre une autre époque, il n'en reste pas moins qu'il a dû se fortifier sérieusement de la résistance de la tradition, parce qu'il avait là affaire à quelque chose d'extrêmement substantiel. Enfin, c'est mon sentiment, en tout cas, d'ignorant qui voit les choses d'un peu loin, mais qui néanmoins en enregistre certains effets indiscutables. Alors maintenant, je voudrais donner la parole à Emmanuel, qui vient de publier un numéro spécial de sa revue, Poésie Première, consacrée à la poésie coréenne contemporaine, afin qu'il nous présente un petit peu ce numéro et nous raconte l'histoire de cette publication.
Donc, Poésie Première, revue de poésie contemporaine, hein, pas exclusivement coréenne, mais par contre ouverte à toutes les poésies du monde, a consacré donc un numéro à la poésie contemporaine coréenne, bon, à la suite d'un contact avec Kim Bona, avec qui j'ai été mis en contact à la fois par sa collègue Michel Duclos et par Jean-Paul Michel, et qui donc a proposé de faire quelque chose à l'occasion du 100e anniversaire de Yisang. Donc nous publions Yisang, et nous publions aussi 4 autres contemporains, plus récents qu'Yisang, Ko-un, Shin Kyung-nim, Cho Jung-kwon et Wang Ji-woo. Nous présentons évidemment des traductions de ces auteurs, du soit à Kim Bona, soit à Han Dae-gun, avec aussi des introductions, des présentations des auteurs en question, comme notre revue le fait toujours, et là c'est peut-être d'autant plus indispensable qu'il s'agit de mettre le pied dans un autre univers culturel que le nôtre, et avec aussi des textes en prose des 4 poètes vivants qui se situent eux-mêmes par rapport à la poésie coréenne et de manière plus générale à la Corée et parfois au monde, hein, qui sont aussi des essais intéressants. Et donc, je suis, comme mon voisin, pas spécialiste de poésie coréenne. Comme lui, j'en ai publié, et comme lui, j'ai des réactions de poètes français qui en lient. Ce que je constate, et je rejoindrai Jean-Paul Michel, c'est que cette poésie, qui est souvent une poésie de rupture à la suite de Yisang, est aussi une poésie en dialogue avec un héritage culturel autre que le nôtre. Et donc, par exemple, je pense au texte de Cho Jung-kwon qui évoque l'image de la montagne dans la tradition asiatique en l'opposant à ce qu'en fait M. Durand dans les structures anthropologiques de l'imaginaire, en montrant que justement une montagne asiatique, ce n'est pas exactement la même chose qu'une montagne occidentale, chose qu'il est utile de préciser avant de lire ses propres poèmes sur ce sujet. Et par ailleurs, donc c'est une poésie de rupture, mais aussi souvent d'opposition aux multiples violences subies par la Corée, alors violence de la domination japonaise, de la coupure politique du pays en deux, et puis ensuite, puisque c'est des Sud-Coréens, des diverses dictatures sud-coréennes, bien sûr il y en aurait une autre au nord, et aussi d'une certaine manière, c'est Wang Ji-woo qui l'évoque, d'une modernité technologique importée qui ne s'est pas accompagnée immédiatement, en tout cas, d'une modernité politique qui a été plus subie sans doute qu'en Occident et à laquelle il faut aussi réagir. Et donc, cette poésie cherche, je dirais, à la fois à renouer les fils avec son héritage, à le revivre autrement et à participer de ce qu'on pourrait appeler la culture mondialisée. Donc on a des poètes qui sont souvent en rupture avec l'héritage confucéen, comme Yisang. Pour 2 des 4 contemporains que nous publions, par contre, ils se rattachent plus que moins au bouddhisme, qui était un peu marginalisé en Corée au milieu du siècle. Et c'est notamment le cas de Ko-un, qui a été moine bouddhiste avant de devenir moine poète, si j'ose dire, et poète errant. Il s'agit aussi toujours d'un rapport avec la mort. Un poète que nous ne publions pas, mais que mon voisin a publié, Kim Soo-young, écrit que ta liberté violente ressemble à un suicide. Et il y a effectivement quelque chose comme un suicide de la langue, ou en tout cas des langues de bois, chez Wang Jiu, une confrontation à la mort spirituelle qui est un moyen de renaître au monde chez Cho Jung Kuo, un humanisme qui est une façon de quitter tous les domiciles, y compris celui de la langue, chez Ko-un, une enfance retrouvée chez Shin Kyung-nim. Et bon, suivant les auteurs, ça peut prendre à la fois le visage d'une contestation sociale ou d'une contestation du langage établi. C'est au fond deux manières de recréer un monde dans sa langue, comme essaie de le faire tout poète. Voilà, je crois que je peux rendre la parole à Jean-Paul Michel.
Ben, écoutez, je voudrais surtout vous la donner à vous-même. Vous n'êtes pas venu ici pour nous entendre, mais aussi pour parler. Donc que cette petite réunion soit l'occasion pour vous de vous manifester, peut-être d'interroger tel ou tel des présents, ou bien de faire connaître votre propre sentiment touchant cette poésie. Que pensez-vous de ce, je ne dirais pas cette difficulté, mais enfin ce problème que je soulevais tout à l'heure, disons du rapport entre modernité et tradition, qui nourrit, à mes yeux, d'une façon vraiment profonde, la modernité même, dans le cas de la situation de la poésie coréenne contemporaine. C'est vous qui êtes les connaisseurs de la chose coréenne. Moi, je suis seulement un lecteur français de poètes coréens traduits. Vous voyez, il me manque beaucoup de choses pour entrer véritablement dans le sein des saints. Non, un sentiment tout à fait libre et privé. Je vois très bien, enfin, quant à moi, ce qu'a pu être la rupture, vous voyez, de ce surgissement du sujet personnel, d'une littérature, de l'expression du moi, de la subjectivité individuelle, dans un univers dans lequel, au contraire, tout simplement le moi n'existait pas. Et lorsque Kim Bona dit finalement avec Yisang, c'est une naissance de l'individu en poésie, il y a là quelque chose de tout à fait à la fois flagrant et en même temps c'est un événement violent. Donc je me demande comment la chose peut être perçue de l'intérieur, si je puis dire, par des gens qui ont à la fois un pied dans la tradition et un pied dans la modernité. Monsieur Ko, dont nous parlions tout à l'heure, me semble justement dans cette sorte de posture-là, nourri par une très profonde contradiction interne qui, du coup, en fait un poète extrêmement intéressant. Vous voyez, on sent qu'il est irrigué par une tradition qui vient vraiment de loin. Et en même temps, il est notre contemporain, très, très contemporain et très présent dans une modernité tout à fait réelle. Mais je suppose que ça ne va pas nécessairement de soi et que, vous voyez, l'articulation de ces deux possibilités de la poésie n'est pas quelque chose qui doit forcément apparaître comme une évidence pour tout le monde.
Pour moi personnellement, la relation entre la modernité et la tradition, c'est une question, je pense, que tous les jeunes coréens d'aujourd'hui se posent chaque jour, chaque matin. Mais pour moi, avec la poésie coréenne contemporaine, plutôt, comment dire, je dirais, j'ai une sensibilité d'esthétique traditionnelle, mais j'ai une modernité idéologique littéraire.
Oui, mais, oui, mais justement c'est bien ce qui me semble percevoir. Mais quand je lis ces poètes coréens contemporains, je vois qu'ils sont travaillés là par ce. Mais ça n'est pas une faiblesse ou un défaut ou une lacune. C'est au contraire un indice de réalité véritable de leur posture. Et comment en serait-il autrement ? Enfin,
je crois que pour nous, lecteurs français, on est évidemment moins frappé par la rupture avec une tradition qu'on ne connaît pas bien. Et par contre, on est frappé par ce qui reste de cette tradition ou ce qui résiste dans les textes, qui nous est plus étranger, évidemment, que la modernité.
Et que nous admirons beaucoup.
Et que nous admirons. Et cette tension nous intéresse, évidemment.
Enfin, en vérité, je ne voudrais pas me faire ici l'avocat du diable, mais disons que la tradition poétique de la Corée, de l'Asie en général, général, en vérité, nous impressionne énormément. Je regarderai comme une perte énorme, vous voyez, le fait que, sous un prétexte quelconque de modernité, vous voyez, tout cela se perde ou apparaisse sans légitimité. La tradition de la poésie de l'Asie, par sa puissance de concision, de concentration et d'évocation absolument sans égale de la réalité de l'instant dans ce qu'elle a de plus ténu, est une merveille en soi. J'espère que jamais les jeunes Coréens ne renonceront à cela. Et au fond, je fais confiance aux poètes contemporains de la Corée pour faire leur affaire de tout cela. Alors, il ne s'agit pas nécessairement, vous voyez, de répéter sans variation des formes reçues comme des contraintes. Mais, vous savez, l'histoire des formes, c'est très compliqué. Quelquefois, dans des formes qui ont l'air anciennes, beaucoup de choses très nouvelles passent. Et quelquefois, dans des formes qui ont l'air très modernes, finalement, il ne se passe pas grand-chose. Donc, je crois qu'il y a quelque chose de fécond dans cette contradiction. Et que c'est une contradiction qu'il ne faut pas se voiler. Je vous raconte une histoire pour terminer sur un sourire qui, je change apparemment de sujet. À mon avis, on est en plein pourtant dans le sujet. L'un des poètes coréens qui était venu à ce petit congrès qui avait eu lieu à Bordeaux il y a quelques années et dont j'ai publié un volume, un charmant garçon d'ailleurs, plein d'humour, et qui s'appelle Wang Jiu, me dit « Je vais vous raconter l'histoire de l'industrie automobile coréenne ». Nous ne sommes pas hors sujet. Il me dit, vous savez, en Corée, il n'y avait pas d'automobile. Nous avons appris, nous avons découvert ce que c'était qu'une automobile en démontant les jeeps qu'avait laissé l'armée américaine. Et vous voyez, en 50 ans, l'usage que nous avons fait de ce savoir. Et en effet, si vous considérez la position de l'industrie automobile coréenne aujourd'hui dans le monde, ma foi, elle se tient très bien. Eh bien, j'ai l'impression que, touchant la poésie, c'était d'ailleurs la seule raison pour laquelle il me racontait cette histoire concernant l'automobile, concernant la poésie, me dit-il, on est un peu dans la même situation. On découvre ce que c'est qu'un poème moderne en démontant les jeeps qu'a laissé l'armée américaine, enfin, les poèmes qu'ont laissé les Européens ou les Américains de passage. Donc, nous entrons dans un univers qui nous était absolument inconnu, mais nous y allons d'un bon pas, et nous ne désespérons pas de nous y illustrer vraiment, comme nous avons montré que nous étions capables de le faire dans d'autres domaines. Et je crois que le parallèle doit s'arrêter là, parce que malheureusement, pour faire un grand poème moderne, il ne suffit pas de démonter un poème ancien ou un poème moderne fait par un autre. D'autres choses se jouent dans la poésie que dans l'automobile. Il est relativement facile de reproduire une automobile en la démontant pièce à pièce et en la reconstruisant pièce à pièce. Il n'en va pas peut-être tout à fait de même pour la poésie. Et je ne vois pas bien d'avenir, d'ailleurs, à une espèce d'abstraction mondialisée, là, de poème moderne, entre guillemets, qui ne serait le poème de personne. En vérité, je compte sur les poètes coréens pour être des poètes coréens. Et à cette condition, ils pourront être des poètes contemporains qui concerneront universellement les lecteurs de la poésie. Je trouverais affreux, vous voyez, que la génération nouvelle, d'ailleurs je ne crois même pas cela possible, tellement cela serait monstrueux, que la génération présente des poètes de la Corée, vous voyez, puisse ignorer ce qui finalement est le suc même de la culture et de la pensée et de l'existence de ce qui représente quand même une grande part de la culture et de la civilisation humaine. Vous voyez, cette histoire de modernité, il ne faut pas en avoir peur. Nous sommes des barbares professionnels, nous ne faisons que ça, nous cassons nos formes sans arrêt, tous les jours. Mais ceci étant dit, nous ne sommes pas nécessairement simplement des modèles qu'il y aurait lieu d'imiter en démontant quelques poèmes brisés par des Occidentaux pour essayer de montrer qu'on est capable de faire pareil en Asie. Cela, non seulement ne produirait pas grand-chose d'autre que des débris, et d'autre part, on y perdrait peut-être ce que nous admirons quand nous entendons lire M. Ko. Hein, il y a dans la revue publiée par Emmanuel quelques poèmes de M. Ko que je viens de lire en français. Ils sont admirables. Je ne suis pas persuadé que son souci ait été d'être moderne. Il lui suffisait d'être poète. La définition de la poésie, vous savez, c'est que c'est une littérature qui ne s'use pas. Donc les questions de temps, d'antécédence, de conséquences sont secondaires. Lorsque Yisang écrit un à un, comme le riz, je repique mes chagrins, il nous parle. Il nous parle. Mais vous voyez qu'il y est question quand même de repiquer du riz. Il n'est pas obligé de se transformer en cow-boy texan en train d'écorcer son maïs grain à grain. Donc l'enjeu un peu problématique, voyez, de toute cette affaire, mais en même temps l'enjeu intéressant, il est là. Voyez, est-ce que la modernité, entre guillemets, là je me fais l'avocat du diable, voyez, moi je suis un moderne professionnel, mais je vois bien à quelles conditions cela peut avoir du sens pour nous-mêmes d'abord et puis pour d'autres éventuellement. Ce n'est qu'à la condition que nous ne perdions pas la proie pour l'ombre, que nous ne lâchions pas la proie pour l'ombre, et que, sous des prétextes de forme, nous ne perdions pas ce qui est le suc même de l'acte poétique. Repiquer ses chagrins grain à grain, cela parle universellement à tout homme. Pourtant, cela est profondément senti, voyez, par quelqu'un qui comprend ce que ça veut dire, piquer quelque chose, voyez, repiquer un à un des grains. Ce qui, d'ailleurs, métaphoriquement, parle aussi beaucoup poétiquement. Quant à ce que ce soit des chagrins qui soient ainsi cultivés, alors vous voyez, ça nous ouvre à des horizons qui, évidemment, nous parlent infiniment. Mais, vous voyez, lorsque Kim Bona dit, au fond, Yisang, c'est un peu dada à lui tout seul, c'est tout à fait vrai. Mais cette irruption dadaïste, vous voyez, d'une modernité sauvage, vraiment sauvage, qui le met à l'écart d'emblée de la totalité de la tradition, c'est-à-dire de la culture, c'est-à-dire de ses contemporains et de ses pairs. Mais cette modernité sauvage, si elle n'était que le mime de la sauvagerie des autres, n'aurait aucun intérêt, ni pour les autres, ils connaissent déjà, ni pour soi, puisque précisément, ce ne serait qu'un mime.
Ce n'est qu'une période.
Voyez, voilà. Notre livre. Bien sûr, bien sûr. Oui. Mais vous voyez tous la différence qu'il y a entre un billet de banque et la photocopie d'un billet de banque. Eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. Il est évident que ce que nous aimons dans la poésie contemporaine coréenne, c'est la part qui lui est propre et elle n'a pas besoin de nous et que nous l'y encouragions. Mais si nous avions un mot de salut à donner aux poètes coréens, ce serait qu'ils restent eux-mêmes, surtout. Mais moi, lorsque j'avais entendu M. Ko Lee-Won-Jin-hee, je m'étais dit, pourvu que la mondialisation, entre guillemets, vous voyez, ne détruise pas cela. C'est-à-dire que cette façon absolument unique de proférer la parole humaine ne se perde pas. Et à la condition que cette profération se conserve, alors les poètes coréens auront fait leur travail de poètes modernes de bonne qualité. Et ils auront porté sur leurs épaules une tradition qui parlera à demain. Non pas les yeux tournés vers on ne sait quelle espèce de conservation d'un passé qui d'ailleurs n'a pas besoin qu'on se tourne vers lui. Il est déjà là, il parle en nous à notre insu. Mais néanmoins, voilà le cœur un petit peu de cette affaire.
Je voudrais poser une question justement aux jeunes gens coréens. Est-ce que dans votre pays, il y a des lectures publiques par les poètes, comme cela se fait, surtout dans les pays anglo-saxons et en Irlande, en Angleterre, aux États-Unis. Un poète peut rassembler des centaines de personnes qui viennent l'écouter. Est-ce que c'est le cas en Corée ?
Mademoiselle, oui, en Corée, si on annonçait qu'un poète lit, il n'y aurait pas des centaines de personnes, il y en aurait des milliers.
J'espère que je ne vous dis pas de bêtises. Oui, de mon expérience, en fait, la culture de la poésie en Corée est très, très présente et vivante encore aujourd'hui. Par exemple, le premier journal de l'année, en fait, on peut voir les jeunes poètes qui débutent, en fait, la sélection des jeunes poètes qui débutent. C'est une tradition, premier jour de l'année, on achète les journaux pour voir qui sont sélectionnés et quels sont les poèmes. Voilà. Et après, en fait, les poèmes sont traditionnellement strictement lié avec la culture de chant. Et la culture de chant est aussi liée à une culture de pactage et de fête. Et donc, je pense que dans l'âme coréenne, si j'ose dire, ou, comment dire, dans la sensibilité coréenne, il y a cette idée de partager, en fait, les chants, les paroles et un sentiment, un état d'âme, en fait, avec les autres, qui fait que Encore aujourd'hui, les poèmes contemporains coréens sont bien présents et vivants malgré le marché actuel très difficile des éditions littéraires.
Bon, alors nous allons clore sur ces paroles encourageantes, hein, en espérant que le vent qui souffle de la Corée nous amènera un peu, voyez, de cette relation spontanée au poème comme chose à partager. Et ma foi, cette réunion s'en trouverait justifiée deux fois. Donc, nous saluons Yesang aussi pour cela. Bonsoir et merci infiniment de votre présence.